Bonsoir à chacun. On est très heureux avec mon épouse Fiona et les enfants d'être avec vous. On est très honorés d'être là durant ces quelques jours. C'est vraiment un cadeau pour nous. Et puis, vu qu'en général, ceux qui organisent une rencontre comme ça, à la fin, ils n'osent pas trop dire « je vous propose qu'on se remercie ». Je voulais le faire maintenant, remercier ceux qui organisent. Merci beaucoup, il y a Étienne, je vois beaucoup Étienne, je vois Kevin, enfin il y a plein de gens qui sont là derrière tout ce qui se vit. Merci pour ceux qui s'occupent des enfants, pour toute l'organisation, je vous propose qu'on les applaudisse, merci beaucoup. Alors ce soir je ne suis pas venu tout seul, je suis venu avec une copine, avec ma copine. Elle s'appelle Colette, je sais c'est un nom bizarre mais c'est un nom suisse donc ne vous inquiétez pas. Et pour l'appeler, pour la faire venir, il faut faire Colette, 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 plus fort. Ouais, salut. Salut Colette, ça va?
Ouais. Je peux te poser une question?
Bah vas-y. Hein.
Bah quand tu rentres dans ta chambre puis qu'il fait tout noir, tu fais quoi?
Bah j'allume la lumière.
Et si la lumière s'allume pas, tu fais quoi?
Je sais pas, je change l'ampoule.
Ah, c'est bien ce qui me semblait.
Quoi?
T'es normal.
Fais plaisir.
T'es normal dans le sens que comme moi, tu penses que la responsable du problème de l'obscurité, c'est l'ampoule, pas l'obscurité.
Pardon?
Je dis, quand il y a une lampe qui ne s'allume pas dans une chambre obscure, tu penses que la responsable de l'obscurité, c'est la lampe, pas l'obscurité.
Bah oui, c'est logique.
Ouais, mais...
Mais quoi?
Bah, je vais demander des fois pourquoi on passe tellement de temps à dire combien le monde va mal, qu'il est obscur et sombre.
Bon, c'est vrai que le monde va mal, hein.
Ah bah oui, le monde va mal, mais c'est pas un scoop, hein. Je veux dire, Jésus nous a quand même dit que le prince de ce monde, c'était le diable. Sous-entendu, il y a de fortes chances que ce soit pas Disneyland tous les jours.
Pas faux.
Mais ce que je veux dire, c'est que si le monde est dans l'obscurité et qu'on le sait que c'est comme ça, et que dans le monde, il y a une lumière... Ça ne sert pas à grand-chose que la lumière regarde l'obscurité en disant « Oh, ce que c'est sombre !» Ou « Regarde là-bas comme c'est sombre !» C'est tout noir. Alors que ce n'est pas le monde qui est en cause, mais la lumière qui est défectueuse. T'as compris?
Oui, enfin...
Tu vois pas où je veux en venir?
Ben, je...
Je me demande si c'est pas toi qui as besoin de lumière, en fait. Jésus nous a dit qu'on était la lumière du monde, oui ou non?
Oui.
Donc, c'est comme pour ta chambre. Si le monde est dans les ténèbres, c'est pas la faute du monde. C'est la faute de la lumière. De l'ampoule.
Ah.
Et... Alors, au lieu de voir combien le monde va mal, peut-être qu'on pourrait être plus intelligent et se dire comment on pourrait ensemble mieux éclairer tout ça, non?
Ah.
Je dis, on est... Comment te dire ça? Si on est la lumière du monde, on n'est pas seulement victime que le monde soit tellement obscur autour de nous. On est peut-être aussi un petit peu responsable.
Bah, tu sais, Colette, personnellement, je préférais la première solution. Quoi. Ça nous responsabilisait moins, quoi.
Eh bien, ça, c'est une réponse typiquement masculine.
Eh bien, ça, c'est une réponse typiquement masculine. Gne, gne, gne.
Bah, tu proposes quoi, alors, comme solution, toi? T'en as une?
Non, je sais pas. Faut pas t'énerver. Je me dis juste que si on veut vraiment être le sel du monde, il faudrait peut-être qu'on change de tactique.
Dans quel sens?
Dans le sens que j'ai l'impression qu'on essaie d'être connu pour ce qu'on ne fait pas, nous. On ne dit pas de gros mots. On ne fume pas du cannabis. On boit pas trop à la fois. On fait pas l'amour avant le mariage. Ou alors de moins en moins. Ou de plus en plus, enfin vous avez compris quoi. Bref, on essaie d'être connu pour ce qu'on fait pas.
Et alors ?
Ben, tu te souviens de beaucoup de monde, toi, à cause de ce qu'ils n'ont pas fait pour toi.
Personne en fait.
Ben voilà. Donc c'est normal que les gens se souviennent pas de nous. Et c'est normal que le monde soit obscur parce qu'ils savent même pas où c'est l'interrupteur pour allumer la lumière.
C'est pas faux. C'est dur, mais c'est pas faux.
Ben moi, je dis juste que si on veut que les gens se souviennent qu'on existe, faudrait peut-être arrêter d'être connu pour ce qu'on fait pas et commencer à être connu pour ce qu'on fait. Vous êtes là ?
Oui.
C'est bizarre, il n'y a personne qui a dit « Amen !»
Mais c'est normal, Colette, on n'est pas dans les ADD, là, on est...
C'est pas grave, avec moi ça passe. Arrêtons d'être connus pour ce qu'on fait pas et commençons à être connus pour ce qu'on fait. Amen,
Amen.
Tu vois. À plus.
C'était Colette. On m'a demandé pour cette intervention de réfléchir au temps dans lequel on vit maintenant, notre temps maintenant. Et puis dans ce monde-là, dans ce temps qui est le mien. Et ça me permet juste de remercier encore Thierry pour ce qu'il nous a partagé ce matin, qui était vraiment excellent. Et je vais m'inscrire dans cette continuité-là, mais dans le temps qui est le nôtre maintenant, dans ce temps-là, comment être pertinent en tant que chrétien ? Comment être pertinent en tant que suiveur du Christ ? Comment être pertinent en tant qu'Église, dans ce temps-là ? Dans quel monde on vit ? On vit dans un monde qui change. Donc je vais prendre un temps pour réfléchir à notre temps maintenant, et puis après aussi un temps pour voir comment est-ce qu'on peut être pertinent en tant qu'Église, en tant que personne, par rapport à ce monde-là. On vit dans un monde qui change, on vit dans un monde qui a changé, on vit dans un monde qui va changer. C'est un tournant de société. C'est un tournant de société qui a commencé il y a déjà pas mal de décennies et je ne suis pas encore vraiment certain qu'on ait saisi à quel point ça a changé. Je crois qu'on commence à sentir les répercussions de ce changement-là au niveau sociétal. Mais je ne suis pas sûr qu'on ait encore bien saisi ce que ça signifie. En fait, ce qui avait tenu notre société pendant 15 siècles, qu'on appelle la chrétienté, ce qui a tenu la société pendant 15 siècles s'efface, s'estompe et s'écroule. Et ça s'écroule aussi vite qu'un arbre dont le tronc aurait été rongé de l'intérieur et qui tenait que par l'écorce. Ça tombe vite, un arbre qui tient que par l'écorce et qui n'a plus de tronc. Et dans ce temps qui est notre temps, il y a un temps à penser, il y a un monde à penser, puis il y a aussi une église à penser. Parce que si le monde bouge et que moi je suis dans ce monde et que c'est mon monde et que c'est ton monde et que c'est le monde de ton église, alors il faut aussi repenser l'église. Mais la première chose que je voulais partager avant d'aller plus loin et que ça marche, j'ai un ministère absolument incroyable au niveau de mettre en panne ce genre de truc. Où que j'aille, c'est fabuleux. Je pense que Colette arriverait mieux que moi. C'est pas du tout ça. Je t'attends, Colette.
Étienne, je suis de tout cœur avec toi. Je connais ces moments. Yes, superbe. Ce que je voulais dire, merci beaucoup Étienne. Ce que je voulais dire, c'est qu'avant de penser nos temps, ça vaut la peine d'avoir cette petite parole de l'Ecclésiaste. Garde-toi de dire, comment se fait-il qu'autrefois les choses allaient mieux qu'aujourd'hui ? Car ce n'est pas la sagesse qui te dicte une telle question. Et quand tu connais l'Ecclésiaste et qu'il te dit, c'est pas la sagesse qui te dicte une telle question, tu peux déjà savoir qu'est-ce que c'est qui te dicte cette question-là. On va réfléchir à notre temps aujourd'hui, mais pas en se disant comment ça se fait que c'était mieux avant. J'ai à cœur qu'on puisse réfléchir à notre temps, que tu puisses réfléchir avec moi à notre temps, en étant absolument certain que Dieu a quelque chose pour ce temps-là, aujourd'hui. Vraiment, quelque chose pour ta vie, quelque chose pour ton église, pour ton groupe de jeunes, pour ton groupe d'aînés. Parce que Dieu a quelque chose à dire à chacun de nos temps. Et j'avais juste à cœur compris pour que tout ce qui sera dit puisse être vraiment là comme boosté par la foi espérante que Dieu a quelque chose pour mon temps, pour mon quartier, pour ma ville, pour mes voisins. Et je vous invite à la prière. Seigneur, merci parce que ton temps n'est pas venu à la fin. Merci parce que tu as quelque chose pour notre génération, pour cette génération, pour celle qui vient et pour celle qui viendra après celle qui est en train de se lever. Merci parce que tu n'as pas dit ton dernier mot. Merci parce que le temps de la grâce est là. Et Seigneur, je te demande que tu viennes vraiment renouveler nos pensées, notre intelligence, notre foi aussi et notre joie de t'appartenir. Je te prie que durant ce temps, mais pour la suite aussi de ce qui vient, on soit vraiment, ouais, tu renouvelles notre créativité de penser. Penser l'Église, penser ma vie chrétienne dans ce monde qui change. Amen. On est entré dans une ère qu'on appelle post-chrétienne. Ça veut dire qu'on ne sait pas tout à fait ce que ça va devenir. On est en plein virage, sans savoir exactement sur quel paysage va s'ouvrir ce virage-là. On tourne une page, mais il n'y a rien qui est écrit derrière. Et on ne sait pas trop ce qui va être écrit. La seule chose qu'on sait, c'est que ce ne sera plus chrétien, post-chrétienne. La seule chose qu'on sait, c'est ce que ce ne sera plus. Notre monde ne veut plus être dominé ou dirigé par une pensée qui est nourrie des valeurs chrétiennes. Et tu le sens. Et tu le sais. Parce que ça se voit dans les médias, ça se voit un peu partout. Mais la vraie question dans ce changement de société, c'est pas seulement où est-ce que le monde va, mais où est-ce que moi je vais aller. Moi en tant que chrétien, nous en tant qu'église, nous en tant qu'association, nous en tant que différentes associations bien plus larges. Et peut-être qu'avant de se poser la question, on pourrait se dire, mais quelle que soit la direction sociétale de demain, il va où, lui, Jésus ? Il va où ? Et comment on le suit ? La chrétienté, c'était une époque où tout le monde était chrétien de nom. C'était une région, pardon. C'était une époque, je vous ai dit 15 siècles. C'était une civilisation. C'était une idéologie, ça veut dire un état d'esprit, une manière de penser le monde, l'Église. Une manière de penser ce monde en se disant que l'Église ou la pensée chrétienne, la culture chrétienne, est là aussi pour dominer, pour amener de l'ordre social, pas seulement de la justice sociale, mais surtout de l'ordre social. Et puis c'était aussi un arrangement politique entre l'Église et l'État. Je sais que c'est pas, ça ne nous concerne pas, nous, spécialement, dans nos églises évangéliques, mais n'empêche que c'était la culture ambiante. La chrétienté, c'était une époque où l'Église pouvait contrôler la société. C'est un moment où on pouvait faire pression socialement ou économiquement pour que chaque personne soit chrétien, au moins culturellement. Qu'elle connaisse le nom de Jésus ou de Moïse. Pas forcément qu'elle l'aime, mais au moins qu'elle le connaisse. Alors on peut être nostalgique de cette période où tout le monde connaissait l'histoire biblique, où si tu parlais de la foi, de la Bible avec des gens, tu parlais des paraboles, tu savais qu'ils n'étaient pas en train de penser à des paraboles pour avoir un attel ou un portable. Ils savaient qu'on parlait de Jésus. Alors on peut être nostalgique de cette période, on peut aussi être heureux de cette période, parce qu'on serait persuadé que la chrétienté a perverti le message que le Christ voulait proclamer. Mais qu'on soit nostalgique ou heureux, ça ne change pas grand-chose. Parce que c'est une période qu'il faut quitter, qu'on est en train de quitter, qu'on doit quitter. Et du coup, il faut qu'on apprenne comment être chrétien dans un monde qu'on ne peut plus contrôler. Comment être église dans un monde qu'on ne peut plus dominer. Ça, c'est notre défi. J'irai même plus loin. Comment être chrétien dans un monde qui ne veut surtout plus être contrôlé ou dominé par une pensée chrétienne. Ça, c'est notre défi. Il est là, notre défi. C'est le tien, c'est le mien. Et je n'ai pas beaucoup plus de clés que toi pour répondre à ça. Mais on a le même esprit. Et on peut lui faire confiance. Comment être chrétien, comment être disciple de Christ dans un monde qu'on n'est plus en mesure de contrôler, ni socialement, ni éthiquement, ni moralement, ni philosophiquement, ni économiquement. Oh, on ne peut plus contrôler, non. Mais on peut encore aimer. Un monde qui est sécularisé, ça veut dire qu'on n'a plus besoin de Dieu. Pas besoin de Dieu pour la question de la science, pas besoin de Dieu pour la question des finances. On ne veut plus de Dieu pour la question de l'éthique, de la recherche en biomédical. Voilà, plus besoin de Dieu. Un monde qui est post-chrétien, je vous l'ai dit, c'est-à-dire que l'Église est remise en cause. De quel droit est-ce que l'Église aurait quelque chose d'autoritaire à dire sur un sujet? Et pour montrer qu'on a tourné la page, on déballe tout ce que l'Église a fait en secret. Et c'est juste de le faire. Mais on le déballe pour dire, voilà, ça c'est fini, on n'en est plus là. Et puis notre monde est aussi post-moderne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on remet en question la notion de vérité, et surtout d'unique vérité. Ça passe vraiment difficilement. Et tu n'as pas besoin d'être jeune et d'avoir moins de 20 ans pour savoir ça. La question de Jésus comme unique sauveur, ça ne passe pas. Ou difficilement. Et puis c'est un monde qu'on peut appeler aussi post-vérité. Ça veut dire que l'émotion qui est suscitée compte tout autant que le message qu'elle contient. Que le message soit basé sur des faits réels ou sur des faits inventés, ce qui compte, c'est l'émotion que ça procure. Des fois même plus que ce soit vrai ou pas, c'est pas grave. Ça m'a rendu heureux. Et donc, dans ce monde-là, qui est mon monde, alors, ok, c'est mon monde à Aigle, en Suisse. Peut-être que toi, c'est très différent, parce que la France est beaucoup plus en avance. Ça, vous n'êtes pas français. Et nous, on dit, Dieu a quelque chose à dire dans tous les domaines de notre vie, dans les finances, dans l'éthique, dans la morale, même dans la gestion du temps. Et nous, on dit, l'Église fidèle, l'Église qui appartient au Christ, elle a quelque chose de prophétique et de puissant à dire à notre société, quelque chose d'unique. Et puis, au cœur de notre foi, il y a cette assurance et cette certitude. Il n'y a qu'un seul chemin qui mène au Père. Il n'y en a qu'un seul. Oh, s'il y en avait plusieurs, on serait d'accord de le dire, mais la réalité, c'est qu'il n'y en a qu'un seul qui est ressuscité. Et puis, c'est basé justement sur les faits historiques du ministère de Christ, de sa résurrection. Petit choc de culture. Hein. Petit choc culturel. Comment être chrétien, comment être église, comment être groupe de jeunes, comment être groupe d'aînés dans un monde qu'on n'est plus en mesure de contrôler. Il est là notre défi, il est grand notre défi, mais il n'est pas du tout plus grand que le défi des premiers chrétiens. Et il va nécessiter des remises en question, c'est clair, de la souplesse, de la créativité. Et il va nécessiter ce défi-là, il va nécessiter des racines identitaires profondément plongées dans qui est Jésus, qui est Dieu et comment je peux le vivre. Des racines pour former un tronc identitaire et pas juste une écorce. Notre défi, c'est de garder le tronc et de changer l'écorce. Et nous, souvent, on aime bien l'écorce. Mais pour se lancer ce défi, je me dis juste deux, trois trucs. Avant de vraiment se lancer dans ce choc de culture, il faut juste s'assurer de deux, trois éléments. Trois, en fait. Dans ce monde qui est en pleine mutation, est-ce que l'homme a encore besoin d'être sauvé? Bonne question. Vous avez l'air d'accord. Je pose la même question dans un autre amphithéâtre, vous verrez les réponses. Est-ce que l'évangile est toujours le message unique du salut pour cet homme-là? Et la troisième chose, c'est est-ce que l'église est toujours le moyen que Dieu a choisi pour partager cet évangile? Alors on va y aller assez vite, mais l'homme, est-ce que l'homme a vraiment toujours besoin d'être sauvé? Ça paraît assez clair, franchement. Alors, au niveau des médias, on dit plus souvent que la planète a besoin d'être sauvée. Ça, oui, on en parle, et c'est vrai. Mais si la planète a besoin d'être sauvée, c'est parce que c'est l'homme qui a saccagé la planète. Et donc, ça vaudrait encore plus la peine de sauver l'homme avant de sauver la planète. Mais bon, peut-être qu'on fera les deux en même temps. Est-ce que l'homme a besoin d'être sauvé? Je me dis, mais si on voyait un seul reportage animalier sur un animal qui faisait à ses compères ce que l'homme se fait à lui-même, on se dirait, mais ils sont vraiment malades. Imagine une sorte de lion qui met des claques à la lionne. Tic, pooh ! Elle bouge encore. Pooh ! Tu n'y mets ici. Pooh ! Ils sont malades, ces animaux-là. Imagine si on voyait, je ne sais pas, un documentaire sur une sorte de gorille qui, chaque fois qu'il voyait son petit se planter ou tomber, serait mort de rire. Ou alors que cette même sorte de gorille laisserait sans rien faire qu'un de ses congénères, tous les quarts d'heure, saute d'une falaise. Mais ils sont malades. Si on voyait un seul reportage sur une espèce animale qui faisait le quart des actions que l'humain fait à lui-même, on se dirait des pieds à la tête, ils sont malades à tous les étages. Il y a vraiment besoin que l'homme soit sauvé. Il y a réellement le cri d'un cœur qui dit « on est malade ! » On est malade d'amour. On a tellement besoin d'être aimé, puis on n'arrive tellement pas. Alors on fait plein d'autres trucs. Est-ce que l'homme a besoin d'être sauvé? Oui, absolument, mais tellement clairement. Et je crois qu'une des bonnes choses, c'est triste à dire, mais un des éléments qui relève à quel point l'homme a besoin d'être sauvé, c'est que tout le monde est en train de se dire, on a détruit la planète. Ouais. Ça, c'est juste un fruit d'un problème de cœur. Essayons de laver le fruit, mais changeons le cœur. Alors, est-ce que l'homme a besoin d'être sauvé? Oui. Est-ce que l'évangile est toujours le message qu'il faut annoncer à l'homme en train de se noyer? L'évangile, c'est la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. C'est la bonne nouvelle de la grâce de Dieu qui vient sauver l'homme de ce qu'il est, tel qu'il est. L'homme malade d'amour, l'homme malade du mal qu'on lui a fait, l'homme malade du mal qu'il a fait. Et la seule chose qui peut guérir un cœur humain, la seule, c'est un amour immérité. L'amour qu'on reçoit alors qu'on avait mérité le contraire. Parce que quand on reçoit de l'amour alors qu'on l'avait mérité, on dit dans nos têtes, ouais mais c'est normal que tu m'aimes. Bah oui, je te fais la vaisselle, je te fais ta lessive, tu fais à manger tous les jours. C'est normal que tu m'aimes, je le mérite. Je ne parle pas de ma femme. Le cœur humain guérit à partir du moment où il se sent aimé alors qu'il avait mérité le contraire. J'avais mérité le contraire, tu m'aimes quand même? Ouais, c'est pas possible. Et c'est à ce moment-là qu'on arrive vraiment à ressentir qu'on est aimé, pas à cause de ce qu'on a fait ou de ce qu'on n'a pas fait, mais de, à cause de qui on est, à cause surtout de ce que Dieu est et de qui il est. La seule chose qui peut guérir le cœur humain, c'est l'amour immérité. L'amour qui nous a offert alors qu'on méritait le contraire. Et je peux dire comme Paul, je suis fier de l'évangile. Ah, je suis fier de cette bonne nouvelle. C'est la puissance de Dieu par laquelle il va sauver tous ceux qui croient. L'évangile nous révèle, je crois que c'est la suite, l'évangile nous révèle en quoi consiste la justice que Dieu accorde. Elle est reçue par la foi et rien que par la foi. Il suffit de croire et ça change ta vie. Il n'y a pas de message plus beau, il n'y a pas de message plus inouï. Et il est unique. La bonne nouvelle de la grâce de Dieu qui nous aime avant que nous l'aimions. J'aime beaucoup cet auteur Tim Keller qui dit « L'évangile est la réponse aux besoins de ce monde non seulement parce qu'il nous sauve, mais aussi parce qu'il nous transforme. » Parfois on a l'impression que l'évangile c'est le message à donner, c'est le béaba de ta vie chrétienne. Comme si une fois que tu as compris l'évangile, bien après tu peux passer à d'autres choses. Mais moi je crois que l'évangile, il nous transforme et il faut toujours revenir à l'évangile. Parce que c'est en croyant toujours plus à cet évangile-là que je suis transformé. Ce n'est pas mes œuvres, c'est son œuvre à lui dans mon cœur. L'évangile, c'est le message de la grâce de Dieu. Et j'aime bien illustrer ce qu'est la grâce et ce qu'elle doit provoquer dans ma vie et dans la tienne. Pour imaginer ça, j'aime bien raconter une anecdote qui m'est arrivée le jour de mes 20 ans. Le jour de mes 20 ans, donc vraiment réellement ce jour-là, je gare mon véhicule, on était à Genève. Déjà il y a 23 ans, il n'y avait pas de place de parc à Genève, maintenant il n'y en a toujours pas. À l'époque, j'en trouve pas, je me pose juste sur les passages piétons, comme on dit ça en France. Aussi, c'est la même chose. Ok. Au moins un terme qu'on a en commun. Et je me gare, je sais que c'est mal, je sais qu'il ne faut pas, mais je n'ai pas le temps. Donc j'y vais, je me gare, tac, et je reviens après 3 minutes, j'ai acheté un petit truc. Et je reviens et je vois un... est-ce qu'il y a des policiers dans la salle? Non. Donc je vois un flic, ça se dit aussi en français. Et je vois cet homme en train de mettre sur... enfin, c'était bien ma voiture, c'est mon numéro de plaque. 200 francs, suisse. Oups. Ça, c'est la justice. Je reçois ce que je mérite. Je savais qu'il ne fallait pas se mettre là. J'y suis allé quand même. 200 balles. Et j'avance vers le policier. Et du haut de mes 20 ans, je dis, pas aujourd'hui, monsieur l'agent. Pourquoi pas aujourd'hui? J'ai 20 ans aujourd'hui. Prouvez-le-moi. Je sors mon porte-monnaie. Tac, 20 ans. Ouais, le porte-monnaie, il y avait ma carte d'identité dans mon porte-monnaie. Ouais, c'est juste. Et du coup, le policier, il fait ça. C'est pas moi, j'espère que... je mettrai du scotch. Et il déchire, moi. Il déchire. Et j'étais là, mais... Yes. Et ça, là, à ce moment-là, j'ai appris ce que c'était la miséricorde. La miséricorde, c'est ne pas recevoir ce que je mérite. Et dans mon cœur, ça fait ouf. Ouf. Mais j'ai toujours pas d'amour pour le flic. Ça fait juste ouf. Maintenant, imagine, l'anecdote réelle s'arrête là, mais imagine que ce même policier aille dans sa voiture, prenne son veston, prenne son porte-monnaie, me donne 300 francs et dise « Joyeux anniversaire, monsieur Geyser ». Là, tu dis, non, c'est pas, c'est, je disais pas ça pour ça. Si, si, joyeux anniversaire, monsieur Geyser. Non, sérieux, c'est pas ça que je vous demande. Si, si, joyeux anniversaire, monsieur Geyser. L'amende, vous inquiétez pas, c'est moi qui la paye. À partir du moment où tu prends, où tu reçois l'argent là, à partir de ce moment-là, tu as de l'amour pour le flic. Il a pas changé, toi non plus. Tant que tu ne reçois pas sa grâce, tu dis non, c'est bon, sérieusement, je n'ai pas besoin de ça. Je ne voulais pas, merci. Et souvent, en tant que chrétien, tu dis non, c'est bon, merci. Mais à partir du moment où tu acceptes le fait de recevoir le contraire de ce que tu méritais, alors à partir de là, lui n'a pas changé, moi je n'ai pas changé, mais dans mon cœur, il y a de l'amour pour cet homme. Pourquoi? Parce qu'il m'a offert sa grâce. Et sa grâce, dans mon cœur, ça fait waouh. Et j'ai l'impression que souvent dans notre vie chrétienne, dans nos vies d'église ou de groupe, on en est resté un Dieu miséricordieux. C'est-à-dire, il ne nous a pas donné ce qu'on méritait. Ouf. Et du coup, on dit merci. Mais on n'a pas compris la grâce. Ou alors quand on nous l'offre, on dit non, c'est bon, non, je ne te demandais pas ça. Si, tiens, prends mon esprit, prends mon adoption, prends mes dons spirituels, prends mes fruits, prends tout ça, prends l'héritage. Non. Pour ceux qui connaissent la parabole du fils aîné, du fils prodigue, prends ma tunique, vas-y, prends mon seau. Non, c'est bon papa, il n'y a pas besoin. Je ne suis pas venu pour ça. Je sais, mais je te le donne. Prends ça. Et j'ai à cœur que l'Église, quelle que soit la dénomination, que mon Église, que ton Église, vive de la grâce, une grâce qui dit, waouh, mais t'es qui toi? Vous êtes qui vous? Vous avez fait où vos études de flic? Il faut envoyer tous les policiers là-bas. Venez prendre un café, vous appelez comment? Vous êtes marié? Vous avez des enfants? J'ai envie de vous connaître. C'est pas possible. Il n'a pas changé, moi non plus, mais dans mon cœur, il y a de l'amour pour cet homme. Pourquoi? Parce que j'ai accepté sa grâce. Waouh! Mais tu es qui, toi? Toi qui non seulement viens payer à ma place l'amende que j'aurais dû avoir, mais qui en plus me donne. Parce que tu aimes, parce que tu es comme ça et tu es généreux. Waouh! La grâce crée naturellement dans nos cœurs de l'amour pour celui qui nous la donne. Naturellement. Et si ta vie, ton groupe de jeunes, ton groupe d'aînés ou ton église manque d'amour, c'est parce que ça fait longtemps que tu n'as plus mangé de grâce. Une église qui a perdu le goût de la grâce, et je dis moi en premier, moi en tant que responsable, si j'ai perdu le goût de la grâce, alors j'ai presque tout perdu. Si on manque d'amour, si ton mouvement manque d'amour, alors revenons à la grâce. La grâce que tu as reçue, la grâce que tu ne méritais pas avant de la recevoir et la grâce que tu ne mérites pas non plus après l'avoir reçue, comme tous les exemples des héros bibliques. Alors oui, le message de l'Évangile est pertinent pour ce monde parce qu'il n'y a personne d'autre qui en parle. Il n'y a aucun message qui dit ça, qu'on peut recevoir le contraire de ce qu'on mérite. Alors oui, l'Évangile est pertinent pour aujourd'hui. Mais à condition, à une seule condition, c'est qu'on le distingue des deux autres attitudes qu'on peut avoir par rapport à Dieu. Parce que l'Évangile a un sosie. On doit distinguer, quand on parle de l'Évangile, il faut qu'on la distingue des deux autres choses, des deux autres manières dont on peut être en vis-à-vis avec Dieu. Et une de ces manières, quel que soit où que tu sois né sur cette terre, c'est d'être dans le mode de l'irreligion. C'est-à-dire, en gros, je ne veux pas de toi. Je ne veux pas de Dieu. Et même si tu existes, je m'en fiche. Je ne veux pas savoir. Je suis aumônier dans un foyer pour jeunes filles, pour des adolescentes, donc qui sont déstructurées socialement, enfin, déstructurées. Et je monte en tant qu'aumônier et je viens leur parler de Dieu. Les premières fois, je ne vous explique pas comment je t'ai bien reçu. Même s'il existe, on s'en fiche. Ça, c'est l'irreligion, quel que soit le nom que ça porte. C'est on rejette Dieu en rejetant sa loi et ses principes. On s'en fiche que tu existes. Mais il y a une autre manière aussi d'être, de rejeter Dieu. Et la Bible nous en parle tellement souvent. L'irreligion, ce n'est pas la seule manière de rejeter Dieu. On peut aussi rejeter Dieu en adhérant à sa loi et en obéissant. La religion, c'est une manière de rejeter Dieu en disant « J'obéis à ta loi, mais je n'ai pas tellement envie de t'aimer. » C'est un mode de vie où on dit à Dieu « Regarde comme j'arrive mieux que les autres. » Alors si tu me juges moi, qu'est-ce qui va se passer pour eux? On change de comportement dans ce style-là, mais on ne change pas de cœur. Et on change de comportement par orgueil. On se dit, mais Gilles, tu vas pas faire partie de ces sales fumeurs de shit. Gilles, tu vas pas faire partie de ces gens qui trichent, qui mentent. Alors on change de comportement, mais on change pas de cœur. Et tu sens que l'esprit, le fruit que ça donne, cette religion-là, c'est un esprit de supériorité qui est dépourvu d'amour pour les autres. Et ça devient un mépris. Un mépris pour ceux que tu perçois ou que je perçois comme étant des paresseux ou des immoraux. Seulement au niveau de l'écorce, parfois c'est la sosie de l'Évangile. on doit distinguer le message de l'évangile des deux autres. Chaque fois qu'on en parle, pas seulement quand on en parle en dehors de nos murs, mais dans nos murs. L'évangile, c'est la réponse aux besoins de ce monde, pas uniquement parce qu'il nous sauve, mais aussi parce qu'il nous transforme. Alors oui, l'évangile, c'est le message, le seul message, l'unique, qui répond aux besoins profonds du cœur humain. L'Église du XXIe siècle retrouve la saveur de l'évangile en la distinguant de celle qui lui ressemble tellement de façade, mais qui lui est tellement différente de cœur. Et le masque de la religiosité, ce masque-là, il va tomber, il va craquer chaque fois qu'on va parler d'adoration débordante, de générosité débordante. Ce masque de la religiosité, il va tomber aussi chaque fois qu'on va proposer de faire des choses pas seulement pour les autres, mais avec eux, avec les autres. Parce que je suis un pécheur. Et que j'ai juste été justifié par la foi. Et parfois j'oublie. Je suis comme eux en fait, de base. Mais Dieu m'a sauvé. Et Dieu t'a sauvé. Amen. Alors est-ce que l'évangile est le message qu'il faut encore annoncer aujourd'hui? Oh oui. Reste une dernière question. Et l'Église? Est-ce que l'Église est toujours pertinente? Est-ce que c'est vraiment ça qu'il faut garder pour annoncer cet évangile à ces hommes, et à tes voisins, et tes frères, et tes amis qui ne connaissent pas? Alors oui, l'Église, à mon sens, est toujours tellement pertinente, tellement unique, mais à la seule condition qu'elle garde le même ADN que celui que Jésus avait en tête quand il en parlait. Et voilà la foi, il me semble que c'est la seule, mais je ne suis pas sûr, il y a de trop bons théologiens dans la salle pour que j'ose dire que c'est la seule. Mais en tout cas, une des rares fois où Jésus parle de l'Église. Et voilà, on est dans Matthieu 16. Et c'est Jésus qui se tourne vers les disciples et dit « Et vous, qui dites-vous que je suis ? Vous pensez que je suis qui ? » Et Pierre, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Tu es heureux, Simon, parce que ce n'est pas de toi-même que tu as trouvé cela. C'est mon Père Céleste qui te l'a révélé. Tu viens d'avoir une révélation, Pierre. Et à partir de là, je vais faire quelque chose. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église, contre laquelle les portes du séjour des morts ne prévaudront pas. La première chose, c'est que je ne crois pas que Jésus, je crois qu'il fait un jeu de mots, mais je ne crois pas qu'il dit seulement « Tu es Pierre et sur le Pierre que tu es, je vais bâtir mon Église. » Même si Pierre a un ministère unique, on est OK. Mais je crois qu'il dit « Tu es Pierre et sur la pierre de révélation que tu viens d'avoir. » Sur ce que tu viens de comprendre, Pierre, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. À partir de là, sur cette révélation-là, je vais bâtir mon Église. Et dans tous les siècles, mon Église va être bâtie que sur cette pierre-là. Tu es Dieu venu rencontrer l'être humain pour le sauver. Ça, c'est la première chose qu'on sait sur l'Église. Elle se base sur une révélation de qui est Dieu. Puis la deuxième chose qu'on oublie souvent, c'est que l'image que Jésus donne, c'est une image offensive de l'Église. Au premier siècle de notre ère, chaque ville, pour se défendre, avait une porte principale, une grande porte. Bien gardés, dont les tenants étaient extrêmement bien solidifiés. Et pour les ouvrir, ces portes, il fallait un gros bélier. Pas le mouton. Un immense bélier avec 200 ou 300 poignées, tenu par 200 ou 300 hommes. Et bon ! Et bon ! La question que se posaient ces hommes et qui se posaient, c'est pas seulement est-ce que la porte va s'ouvrir? Est-ce que ça va céder? La question, c'est pas si ça va céder, mais quand? Parce que c'est sûr que quand on en est là, c'est l'assaut final. Et c'est sûr que ça va céder. Voilà l'Église telle que Jésus la concevait, faite pour ouvrir les portes des villes fortifiées du mal. Sur cette pierre, je bâtirai mon Église contre laquelle les portes du séjour des morts ne vont pas prévaloir. C'est comme si Jésus nous disait, ce que j'ai à cœur, ce que je veux bâtir sur la pierre de la révélation de qui est Jésus, qui il est pour ta vie. Ce que je veux faire dans ton cœur, c'est un système de relations et de projets qui permettra de libérer ceux qui sont retenus prisonniers. Prisonniers de la honte de ce qu'on leur a fait, de la honte de ce qu'ils ont fait. Libérer ceux qui sont esclaves de mensonges sur leur vie, sur la valeur de ce qu'ils ont, sur le sens de leur vie. Libérer ceux qui sont enfermés ou ligotés par des esprits mauvais, par des pensées de mort, par des pensées de suicide. Les portes du séjour des morts ne vont pas prévaloir. Pierre, ce que je suis en train de penser, Église, c'est un système de relations et d'amour et de projets qui vont faire que les portes du séjour des morts ne vont pas tenir. Les battants du mensonge et de la culpabilité vont finir par céder devant la vérité et le pardon que vous allez leur donner. Les gonds de la peur, les charnières de la honte ne tiendront pas face aux élans de l'adoration et du salut que Jésus apporte dans votre vie. Le verrou de l'inconduite ne tiendra pas face à la joie de vivre dans la droiture d'un cœur qui se sait aimé. Et la question, ce n'est pas de savoir si les portes vont s'ouvrir un jour, mais quand ? Parce que c'est sûr, l'Église est faite pour ça. Et du coup, le premier boom de l'Église, c'était à la Pentecôte. Boum. Boum. Et ça a changé la face du monde. Ça a changé la face du monde. Ils étaient 11. Et ce n'étaient pas les meilleurs. Il remonte à quand ton dernier coup de bélier ? En tant qu'Église réunis ou en tant qu'Église dispersée? C'est quand la dernière fois que tu te souviens que ça fait boum? Parce que derrière ces portes, il y a des gens qui désespèrent d'être délivrés. Et des fois, c'est juste ton voisin. Alors, est-ce que l'Église est pertinente pour vivre et annoncer le message de l'Évangile? Oui. Oh oui. Si ça marche. Même dans ce choc culturel dont j'ai parlé. Pourquoi ? Pourquoi elle est toujours pertinente ? Parce qu'elle est faite pour ça. Elle est faite pour affronter un choc culturel. Alors oui, c'est évident qu'entre notre culture chrétienne et la culture de notre monde, il y a un plus grand fossé culturel maintenant qu'il y a 30 ans. Et je n'ai pas besoin d'être prophète pour te dire que dans 10 ans, ce sera encore pire. Et en même temps, il ne sera pas plus grand qu'au premier siècle de notre ère. Ne craignons pas le choc culturel. L'Église est faite pour ça, elle est conçue pour résister au choc, pour ouvrir les portes d'un royaume bien réel, bien présent, mais un royaume désarmé. Bien sûr, quand je parle de choc culturel, je ne parle pas de choc violent, je parle de violence, mais je parle d'un choc thermique. Un choc thermique où l'amour et la fidélité vont rentrer en conflit avec l'air ambiant de l'individualisme. Où la joie du partage va rentrer en conflit avec le pouvoir du gain et de l'argent. Mais devant ce choc de culture, on peut se dire l'Église est faite pour ça. Ce que le système que Dieu pense, et même ton cœur, toi Église en mode dispersé, quand tu n'es pas réuni comme aujourd'hui, ce que Dieu a mis dans ton cœur est pensé et fait pour résister à ce choc. Alors c'est vrai que devant un choc de culture, en tout cas personnellement, on a plutôt une tendance au repli, hein, à la fuite. On se dit on va se retrouver ensemble, entre nous, on met une carapace, on ferme les yeux, on attend que ça passe. Il y a un temps pour tout. Il ne me semble pas que c'est le vœu de Jésus. Il dit dans sa prière, je ne te demande pas de les retirer du monde. Et nous, des fois, on prie, Seigneur, retire-nous. Mais de les préserver du diable. Le vœu de Jésus, je ne le vois pas comme un repli, ni dans sa prière, ni dans la lettre qu'il adresse aux églises de Pergame. Et voilà ce qu'il leur dit, Apocalypse 2,13. Je sais que là où tu habites, Satan a son trône. T'imaginerais qu'il va dire, mais pars, fuis. Non. reste. Mais tu me restes fortement attaché, tu n'as pas renié ta foi en moi. Et même au jour où Antipas, mon témoin fidèle, a été mis à mort chez vous, là où Satan habite. Je sais que là où tu habites, la culture, ce n'est pas du tout celle du Christ. Mais reste. Pourquoi ? Parce que même si les temps changent, le cœur de l'homme reste le même. Les besoins spirituels de l'être humain restent absolument les mêmes et l'homme a besoin de Dieu désespérément. Il faut que tu restes. Parce que ce monde, tous ceux qui sont autour de toi ont une réelle question, une grande question. Elle ne sort pas tout le temps comme ça. Mais la question de ce monde reste la même, c'est la question du cœur humain. C'est, elle est où la lumière dans les ténèbres de mes difficultés ? Il est où l'interrupteur ? Ou l'ampoule ? Elle est où la saveur dans mes souffrances, dans les souffrances de ma vie ? Il est où Dieu dans ce monde ? Il est où ? Et la réponse passe par toi, et la réponse passe par moi, et la réponse passe par nous, ensemble. J'ai envie de t'aimer même si tu mérites le contraire. C'est le message que j'ai compris de Jésus. Et c'est ce que je veux te donner. Et j'aimerais t'interpeller, m'interpeller ce soir. Parce que tout ce que j'ai préparé, vous m'avez obligé de parler de ce thème. Mais ça m'a vraiment remis en question durant ces dernières semaines. Dans ce choc culturel, dans ce temps où ce n'est pas tout simple. Dans ce temps où on préférait se retirer, mais où Dieu nous dit, mais reste. Il y a un verset qui m'interpelle et qui me fait du bien. Ce verset, il est à la toute fin du chapitre pratique de Romains. Romains 12, 21. Ne te laisse pas dominer par le mal, littéralement, ne sois pas vaincu par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Tout au long du chapitre 12, l'apôtre Paul va donner des impératifs. Ils seront tout le temps à la deuxième personne du pluriel. Ne vous laissez pas modeler, mais laissez-vous transformer. Ayez le mal en horreur. Demandez à Dieu. Partagez la joie. Tout le temps au deuxième du pluriel, sauf à la fin, sauf à la conclusion. Là, ce n'est pas vous, c'est toi. Gilles, toi. Ne te laisse pas dominer par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Ne laisse pas le mal te mettre KO. Toi, mets le mal KO. C'est l'image. Pas vous, mais toi. Toi dans ta sphère d'influence, toi dans tes responsabilités, toi dans ton couple, dans ta famille, toi dans tes voisins. C'est une responsabilité communautaire, d'accord, mais elle est portée par chacun personnellement ce soir, quel que soit ton âge, jeunes et vieux. Et la promesse inouïe de ce verset, c'est que le mal peut être vaincu. On peut le battre. Toi. Et ce verset, ce que j'aime, c'est qu'il vise la victoire. Il me semble qu'il n'y a pas longtemps, il y a l'équipe de France qui a été championne du monde. Hein, ça fait longtemps. Puis ils avaient triché en plus. Vise la victoire. Vise pas le repli ou la défense. Paul, là, il dit pas viser le match nul. Non. Vise la victoire, vise pas le statu quo. Le but, c'est pas juste d'essayer si tu as un très bon serveur en face, si on imagine qu'on est au tennis. Le but, c'est pas juste de toucher la balle, de dire « j'ai touché la balle ». Non. Le but, c'est de toucher la balle et pom, tu mets un retour gagnant. Parce que tu sais que l'adversaire en face, il a plus de raquettes. Il a été désarmé. Du coup, oh oui, je vais le mettre, ce retour gagnant. Parce que Dieu m'appelle et t'appelle à viser la victoire par rapport au mal. Pas le statu quo, pas juste on en reste où l'on est. Non, vise la victoire, pas le match nul. Et comment viser la victoire dans ce texte-là ? La victoire, c'est pas seulement viser l'absence de mal, mais c'est viser la présence de bien. sois pas vaincu, sois vainqueur. Pas juste l'absence de guerre entre vous, mais la présence de la paix, du shalom de Dieu. Pas juste l'absence d'injures. Comme ça, on sera connu parce qu'on ne dit pas de gros mots. Non. La présence de paroles qui relèvent. Depuis que je suis allé dans cette église, je me suis senti aimé, on m'a relevé, on m'a dit des choses. Pas juste l'absence de critique, non, la présence d'initiative. Pas juste l'absence de désintérêt pour Dieu, non, de la passion, de l'adoration, des chants comme on a vu, comme on en vit. Parce que le mal ne se vainc pas. Ouais, c'était vise la victoire, attaque. Le mal ne se vainc pas en arrêtant de se faire. Le mal se vainc en faisant son contraire. Le mal ne se vainc pas en arrêtant de se faire. Tu peux très bien arrêter de dire des gros mots et être en colère énorme. Le mal ne se vainc pas en arrêtant de se faire. Le mal se vainc en faisant son contraire. Alors vise la victoire. Chacun personnellement visez la victoire. Toi, vise la victoire dans tous tes défis quotidiens. Ils ne sont pas plus compliqués à relever que ceux que les premiers chrétiens ont relevé. Oh, bien sûr, on a des défis qu'ils n'avaient pas. Ok, ils n'avaient pas les écrans qui venaient jusque dans leur lit, jusque dans leur chambre à coucher, et qui génèrent des combats au niveau des relations, au niveau de la pureté. Bien sûr, ils n'avaient pas des écrans tactiles. Bien sûr, ils n'avaient pas la culture de l'immédiat où si on n'a pas tout, tout de suite, on commence à s'énerver comme si on n'avait pas bien vécu notre crise de 3 ans. Bien sûr, ils n'avaient pas la culture de l'hypersexualité où le porno vient biaiser tous nos rapports hommes-femmes, dans notre manière de regarder l'autre, de le respecter, ok, bien sûr. Bien sûr, ils n'avaient pas les mêmes défis que ceux que j'ai maintenant. Et en même temps, je n'échangerai aucun de ces défis contre un seul de ceux qu'ils ont dû relever. Parce que du temps de Néron, c'est les chrétiens qui servaient de torches vivantes pour éclairer les rues qui menaient au jeu des Colisées. Du Colisée. Ne te laisse pas dominer par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Quel que soit ton âge, quelles que soient les difficultés dans tes relations, peut-être avec tes petits-enfants ou tes arrière-petits-enfants, ne te laisse pas dominer par le mal, sois vainqueur du mal par le bien. Bénissez vos ennemis. Et puis ne sois pas connu pour ce que tu ne fais pas. Ça, c'était une manière d'être connu et faut pas la citer, on va pas vous comprendre. Ne sois pas connu pour ce que tu fais pas. Ça, c'était une manière de se faire connaître dans un temps où la chrétienté était là et où tout le monde était chrétien. Et donc, pour montrer qu'on était vraiment chrétien, nous, on faisait pas des choses que les autres faisaient. On n'est plus dans ce temps-là. Ne sois pas connu pour ce que tu fais pas. Sois connu pour ce que tu fais. Et s'il y a des projets qui sont nés dans votre cœur et qui ont avorté, remettez-les dans les mains de Dieu et regardez si ce n'est pas ça que Dieu voulait faire. Avec toi, avec ta famille, avec ton groupe de jeunes, avec ton groupe d'aînés ou avec ton église. Et je vous invite, vous les aînés, à favoriser des choses qu'on n'a pas encore faites ou qu'on a déjà essayé puis ça n'a pas marché. Peut-être que c'est le temps maintenant. Pour que nos églises soient connues pour ce qu'on fait. Il n'y a pas besoin de grand-chose. Nous, depuis quelques années à Aigle, on est toutes les églises ensemble, on s'appelle Aigle Is En Marche, avec le jeu de mots Aigle. Je sais, il n'y a pas toutes les églises qui peuvent faire ça. Mais on nettoie les parcs et jardins tout l'été, le dimanche matin. Eh bien, il n'y a rien de plus simple. Eh bien, c'est comme ça qu'on est connus. Sois pas connu pour ce que tu fais pas, sois connu pour ce que tu fais. Et dans ce que tu fais, je t'invite, je nous invite et je m'invite dans le monde qui est le nôtre, dans le monde plongé dans l'ésotérisme, dans le fourre-tout spirituel, dans l'occultisme à bon marché, dans les médiums réels ou faux, dans les faiseurs de secrets, dans mon monde, a peut-être à certains moments démontré la puissance du Christ, spirituellement. Face à cette montée de l'ésotérisme, et ça va continuer de monter, n'ayons pas peur, démontrons que réellement Jésus a la puissance sur les esprits mauvais et sur les démons. Je vous partage un témoignage. J'ai un de mes très proches amis, témoin de mariage, qui a été pris dans une secte, donc il n'est pas encore chrétien. Il a été pris dans une secte qui ne se dit pas tout de suite « Ah, on est une secte !» Non, c'est une secte très sympa, naturaliste, massage, bien-être, tout ça. Mais c'était réellement un système sectaire, avec un message global, avec des abus, avec de l'isolement, avec des abus financiers, spirituels et personnels. Et puis tout d'un coup, cet ami vient, m'appelle et me dit « Gilles, ce week-end, je me suis rendu compte, on est dans une secte. » Nous, on le sentait avec Fiona depuis un petit moment. Mais on ne pouvait jamais rien dire, parce que dès qu'on disait quelque chose, on disait « Ah non, mais je sais, c'est encore trop tôt, vous ne comprenez pas. » Tout d'un coup, il me dit « Gilles, on est dans une secte. » Je dis « Ouais. Qu'est-ce que tu peux faire ?» Je dis « Ben, viens me voir. » Il vient me voir, il me dit « Écoute, ma fiancée, ils n'étaient pas encore mariés à l'époque, mais ma fiancée, elle est en Espagne avec le trio des gourous. Elle est seule avec les trois là-bas. Et ça fait 10 jours qu'on ne se parle plus parce que la dernière fois, ça a tellement pété entre nous. Parce qu'eux, ils disent là-bas que si elle grandit pas dans sa foi, c'est parce que moi, je remets en question leur truc. Qu'est-ce que tu peux faire, Gilles ?» On était dans les vignes, à Aigle, tout simplement en train de se balader. Je dis « Mon ami, si moi, je suis soldat et qu'il y a un capitaine qui me donne un ordre, je suis obligé de l'exécuter. Mais si moi je suis soldat et que mon frère il est colonel, je peux aller voir le colonel et dire au colonel « Hey, tu peux demander au capitaine de se la coincer un petit coup ?» Il m'a dit « Je comprends. » Je lui ai dit « Je peux prier. Tu sais le Dieu en qui je crois. » Oh, il le sait depuis 25 ans, je crois. Je lui ai dit « Je peux prier, si tu veux, pour que l'influence spirituelle de ces personnes sur ta femme s'arrête. Mais je peux le faire que si tu veux vraiment ça. » Et que tu mets ta foi en Jésus à ce moment-là. Il me dit, ouais, je suis d'accord. Je dis, oula, mon ami, on arrive bientôt à la fin de la partie d'échecs. C'est-à-dire que soit je prie, ça marche, et tu dois reconnaître que Jésus est Dieu. Soit je prie, ça ne marche pas, et là, ben, je ne suis pas dans le... Voilà. Et j'ai prié, simplement, j'ai dit, voilà, au nom du Christ, je brise l'influence spirituelle de ces personnes sur cette femme. On est à Aigle, elle est en Espagne. Ça fait 10 jours qu'ils ne se parlent plus. Et j'attends même pas 10 minutes. Il reçoit un SMS de sa future femme qui lui dit « Je ne suis pas bien ici, je sens que c'est faux. Je t'aime, j'ai envie de rentrer à la maison. » Et moi je suis là « Yes ! Yes !» Mais intérieurement, comme en Suisse, quoi. Je ne connais pas vos... Très bien, quelle est votre théologie par rapport à ces réflexions-là? Mais ce que je sais, c'est qu'on vit dans un monde au niveau de l'ésotérisme. Il y a un fourre-tout pas possible. Et les gens, et c'est leur message, c'est leur manière de parler, c'est leur langage. Je dis, attends, mais il y a une puissance spirituelle en Christ, bien sûr. Satan va tout faire pour t'empêcher de croire ce qu'il n'a pas pu empêcher d'être vrai. Est-ce que c'est vrai que Jésus est ressuscité? Oui. Est-ce que c'est vrai qu'il donne son esprit à partir du moment où tu crois en lui? Oui. Est-ce que c'est vrai que tu as autorité? Oui. Il va tout faire pour t'empêcher de croire ce qu'il n'a pas pu empêcher d'être vrai. Mais rappelle-toi, il n'a plus de raquette. Renvoie la balle. Tu vas gagner le point. Et puis bien sûr, une démonstration d'amour. Sois connu pour ce que tu fais. Mais si tu n'as pas l'amour, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Le monde peut pratiquement tout faire aussi bien, voire mieux que l'Église. Vous n'avez pas besoin d'être chrétien pour bâtir des maisons, nourrir ceux qui ont faim ou guérir des malades. Il y a une seule chose que le monde ne peut pas offrir, la grâce. Et le cœur humain se guérit en recevant cette grâce-là. De l'amour inconditionnel alors qu'il avait mérité le contraire. Soyons des démonstrateurs de l'amour de Dieu. Aucun musulman ne peut connaître cet amour, dit aucun juif, à moins qu'il soit messianique. Aucun athée, aucun consultant de médium ni de livre sur l'ésotérisme. Et pourtant, c'est après cet amour qu'ils courent tous. Sois pas connu pour ce que tu fais pas. Sois connu pour ce que tu fais. Parce que ton monde en a tellement besoin, et c'est mon monde aussi. J'ai terminé ce temps avec... peut-être que j'aurai un temps de prière après, c'est possible. Avec un slam. Et ça fait longtemps que je n'ai plus fait, donc vous voilà, soyez indulgents. Ce slam, il s'intitule « Qui se lèvera ?» Dis-moi pas que t'as pas vu ce qui se passe dans ta rue. Dis-moi pas que tu sais pas ce qui se vit autour de toi. Pas besoin d'être un génie pour voir les dégâts du mal dans nos vies et dans nos cœurs, les combats. Pas besoin d'aller à Bali pour voir des filles qu'on salit, ni d'aller à Venise pour voir une ville qui s'enlise. La question n'est pas de savoir comment dire ce constat, la question est de savoir qui se lèvera. C'est pas supportable dans ce pays de rêve d'être sur le podium des vies qui s'enlèvent. J'en ai marre de subir des accidents de personnes pour qu'à la fin on dise c'est la faute à personne. Le mal est bien là, colossalement réel, meurtrier, mensonger et clairement personnel. Je l'accuse d'avoir pris l'humanité en otage et d'avoir bien choisi sa tenue de camouflage. Alors, qui se lèvera pour prêcher la vie à ce monde qui s'ennuie, pour dire qu'il y a autre chose que ce qu'on te propose? Il y a un Dieu qui est là et qui n'attend que toi. Elle est là la vraie vie, elle est là la vraie joie. Il n'y a pas 36 solutions pour résoudre l'équation d'un monde qui se meurt et qui cherche une lueur. Jésus dit, vous êtes la lumière du monde, sa saveur. Je crois que là, il faut qu'on sorte de l'ombre. C'est l'heure. Il s'était levé, lui, là-bas, en Galilée, prêchant un royaume qui s'était approché. Il annonçait le pardon à tous les mis de côté, la libération à tous les opprimés. Il brisait les chaînes des désespérés, délivrait de la haine toutes les vies abusées. Il travaillait les cœurs comme on travaillait la glaise pour qu'on devienne meilleur et que le mal se taise. Il prêchait l'amour, on n'a pas trop aimé. On l'a trahi, arrêté, sali, épinglé. J'ai mal à en pleurer de voir ce monde aliéné au point de mettre en croix son Dieu venu l'aimer. Le mal est bien là, colossalement réel, meurtrier, mensonger et clairement personnel. Je l'accuse d'avoir mis l'humanité sous narcose, de le dormir si bien, rendre complète l'hypnose. La vie était vaincue, le chemin barré, la parole s'était tue, le souffle coupé. Personne n'attendait plus les 3 jours annoncés, personne n'y croyait plus quand la lumière s'est relevée. C'était pas une absence, c'était juste une éclipse, cette vie a un sens, va falloir qu'on l'explique à ce monde qui croit pas qu'un Dieu bon existe, que le mal est vaincu même si maintenant il résiste. Alors, qui se lèvera pour prêcher la vie à ce monde qui s'ennuie, pour dire il y a autre chose que qu'on te propose, il y a un Dieu qui est là et qui n'attend que toi, elle est là la vraie vie, elle est là la vraie joie. Il n'y a pas 36 solutions pour résoudre l'équation d'un monde qui se meurt et qui cherche une lueur. Jésus dit, vous êtes la lumière du monde, sa saveur. Je crois que là, il faut qu'on sorte de l'ombre, c'est l'heure. Jésus s'est relevé pour que d'autres se lèvent, inspirés du même esprit, nourris de la même sève. Ils sont allés depuis sur les routes du monde, apporter la vraie vie, mettre en déroute l'immonde. Tu sens pas dans ton cœur l'envie qui te monte de changer quelque chose, d'améliorer ce monde? Ça commence pas par l'autre, ça commence en toi. Laisse place à l'amour, même pour ceux qui t'aiment pas. Je te parle pas de croisière en Méditerranée, de succès, de confort, de retraite assurée. Je te parle de prendre les armes de l'amour et de la paix, d'aller parler aux âmes d'un royaume qui est prêt. C'est pas un conte de fées, c'est pas du Walt Disney. Ce royaume de bonté, c'est un monde qui est vrai, un royaume de fête pour tous les retrouver, où tu sais qu'on t'accepte, où tu te sais adopté. Je dis pas qu'on a tout faux, que personne ne fait rien. On a tous déjà notre lot de douleurs, de terriens. Mais si on se levait tous pour faire un seul pas, on pourrait faire un plus là où on ne fait pas le poids. Tout au long de l'histoire, c'est des minorités qui ont façonné les mémoires, bousculé les idées. Pas besoin d'équipement vraiment particulier, sauf celui qu'il te donne, qui te fait aimer, aimer. T'imagines si demain, quand tu rentres chez toi, tu parles à ton voisin de ce Dieu, de ce roi. T'imagines un royaume qui ne s'arrête pas et qui devienne un baume pour ce monde qui ne croit pas. Je prie pour qu'aujourd'hui ne s'arrête pas là, que ce qu'on construit ici ait un sens au-delà, qu'on entende ensemble à nouveau cette voix. Qui se lèvera? Qui marchera pour moi? Et qu'on réponde en cœur, me voici, envoie-moi. laisse la suite.
Pardon ?
Je te laisse, je vais la suite.